Alors, on va retourner dans Actes, notre même chapitre, chapitre 13, et je vais terminer la lecture du passage que nous allons regarder ensemble ce matin. On va compléter jusqu'à la fin, dans le fond, du chapitre 13, jusqu'au verset 52. On va prier juste avant, d'accord? Père éternel, je veux te rendre grâce pour ce grand privilège que tu m'accordes d'étudier ta parole semaine après semaine, Seigneur. De pouvoir plonger les regards dans ta parole et qu'il me soit rappelé constamment, Seigneur, tes bontés, tes grâces envers Israël et envers tous les hommes, Seigneur, et ce merveilleux salut que tu offres. Père, je veux t'adorer ce matin parce que tu es venu vers nous. Tu n'es pas resté un Créateur distant et éloigné, Seigneur. Mais tu es venu vers les hommes, tu t'es fait connaître de bien des manières à travers les siècles, à travers tes prophètes, Seigneur, à travers cette nation d'Israël. Mais comme le dit si bien, Seigneur, la lettre aux Hébreux, de manière excellente, tu t'es fait connaître à travers la personne de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es l'expression parfaite de Dieu. À travers tes paroles et tes œuvres, et particulièrement à travers l'œuvre de la croix, nous découvrons qui est Dieu. Et je veux dire, Seigneur, combien tu es un Dieu merveilleux. Combien ce Dieu que tu nous révèles, Seigneur Jésus, est sympathique et charmant et aimant. Je ne voudrais pas, Seigneur, vivre à la suite d'un autre Dieu. Je ne voudrais pas vivre pour quelqu'un d'autre que pour toi, Seigneur. Je prie ce matin de venir te révéler à nous à travers ta parole, Seigneur. Que cette prédication, cette lecture des Écritures soit en quelque sorte une fraîche révélation, Seigneur. Et que ces lettres deviennent vie dans nos cœurs, Seigneur. Que par ton Esprit Saint, ces vérités, Seigneur, viennent produire la vie en nous. Viennent produire en nous des cœurs d'adorateurs, des cœurs repentants, des cœurs remplis de joie, de la joie du salut qu'il y a en toi. S'il y a parmi nous, Seigneur, des gens qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus, accorde-leur cette grâce de croire. De croire en toi, Jésus. Je te prie d'être avec ma bouche, Seigneur. Fortifie-moi, j'ai besoin de ta force. Donne-moi ta sagesse et garde tout ce qui sort de cette bouche afin que ce soit conforme à ta parole et dirigé par ton esprit. C'est en Jésus-Christ que je te demande, Père. Amen. Dans Actes 13, je poursuis la lecture au verset 40. Alors ce matin, nous couvrons les versets 14 à 52, nous terminons le chapitre 13. C'est la conclusion de la prédication de Paul dans cette synagogue où il y a essentiellement des Juifs, mais aussi des craignants Dieu, des gens qui voulaient connaître ce Dieu des Juifs. Et voici ce qu'il dit. Il leur donne une mise en garde. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous, les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez indigne, vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui empêche un homme de croire en Jésus-Christ et de goûter à la joie du salut et la plénitude du Saint-Esprit? Je répète ma question. Qu'est-ce qui empêche un homme de croire en Jésus-Christ et de goûter à la joie du salut et la plénitude du Saint-Esprit? Luc répond à cette question-là dans le passage. Je ne pense pas qu'il réponde de manière exhaustive, complète, d'accord? Il y aurait d'autres éléments qu'on pourrait aller chercher pour répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui empêche un homme de croire en Jésus-Christ et de goûter au salut? Et je veux juste vous le dire tout de suite. Il y a certainement quelques personnes dans la salle qui n'aimeront pas ma réponse et qui n'aimeront pas la réponse de Luc. Probablement quelques-uns d'entre vous, dépendamment de votre cheminement par rapport à la foi, ça se peut que vous me trouviez même assez arrogant. C'est généralement ce qu'on dit de ceux qui prêchent l'Évangile. Tant qu'on ne saisit pas l'Évangile, ça donne l'impression qu'il y a une arrogance derrière notre propos. Mais je pense que ce que je vous expose vient vraiment de ce passage-là et j'ai la ferme conviction que ce livre-là est la parole de Dieu. À la lumière de ce passage, voici ce qui empêche un homme de croire en Jésus-Christ comme son sauveur. J'entends une fois qu'on lui a présenté la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, d'accord? Deux choses. Le manque d'humilité ou l'arrogance. C'est la même chose. Et deuxièmement, le fait que Dieu n'a peut-être tout simplement pas destiné cette personne au salut. C'est ça que je vois dans le texte ici. Ce qui empêche un individu de croire en Jésus-Christ une fois qu'on lui a annoncé l'Évangile, dans ce passage, il y a deux raisons. Le manque d'humilité de celui qui entend l'Évangile, son arrogance personnelle, ou peut-être tout simplement le fait que cette personne-là n'a pas été destinée au salut. Et Luc nous dit dans ce passage-là que les deux facteurs sont déterminants. Ce n'est pas un ou l'autre, mais les deux sont déterminants dans le salut. Luc nous dit que le salut demande de l'humilité de la part de celui qui choisit de croire en Jésus-Christ et que ce salut demande aussi une intervention divine en faveur de cet individu. Dans le passage ici, je vois la réponse de l'homme qui entend ce message merveilleux. Et il semble que ça prend de l'humilité pour accueillir cela, ce message, cette bonne nouvelle. Mais dans le passage, je vois aussi qu'il est impossible à l'homme de venir à Dieu si Dieu n'intervient pas, s'il n'y a pas une intervention divine en sa faveur par laquelle l'individu va être sauvé, chacun un à un. Et ce qui est intéressant dans le texte ici, c'est que nous avons un exemple concret. Non seulement on a un verset un peu intriguant comme « Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent ». Mais on a un exemple concret à travers l'attitude des Juifs à Jérusalem qui va se répéter maintenant avec les Juifs d'Antioche, de Pisidie, qui vont avoir cette même attitude où ils vont refuser, ils vont renoncer à cet évangile. Alors, simplement pour se mettre dans le contexte, c'est une prédication qui est pas standard, si je peux dire. Paul arrive à Antioche de Pisidie et il faut comprendre le contexte historique très, très brièvement. Quand Paul arrivait dans une ville, en raison des déportations que les Juifs avaient subies, il y avait des Juifs un peu partout dans l'Empire romain. Et donc, c'est ce qu'on appelait la diaspora juive, d'accord? Et dans la majorité des grandes villes, des villes importantes dans l'Empire romain, vous pouviez retrouver une communauté juive, comme aujourd'hui, comme à notre époque aussi. Et donc, ce que Paul faisait, c'est qu'il allait premièrement vers les Juifs lorsqu'il arrivait dans une ville. À travers les siècles, les Juifs avaient développé ces endroits, les synagogues, qui n'étaient pas un remplacement du temple de Jérusalem, mais qui étaient plutôt un endroit d'instruction et de prière où on se réunissait pour étudier la parole de Dieu et prier ensemble. Et donc, Paul se rendait là parce que, premièrement, l'Évangile était offert aux Juifs. Et il se rendait là premièrement. Aussi, évidemment, parce qu'il allait trouver là des gens qui avaient une connaissance déjà des Saintes Écritures et non seulement des Juifs, mais des craignants Dieu, comme on les appelle ici, ceux qui cherchaient à connaître ce Dieu des Juifs, d'accord? À l'époque et depuis fort longtemps, ce Dieu, cette vision d'un Dieu monothéiste, un Dieu qui n'est pas un petit Dieu qu'on peut domestiquer et qui nous ressemble de bien des manières par ses mesquineries, par ses penchants, par ses vices. Ce Dieu beaucoup plus grand, juste, droit, saint, que les Juifs annonçaient, attiraient des gens. Et donc, vous aviez ces craignants Dieu, ces gens qui voulaient connaître, qui n'étaient pas nécessairement encore des convertis, d'accord, au judaïsme, mais qui cherchaient à connaître ce Dieu. Ils étaient là, et c'est donc à eux qu'il va s'adresser. Lorsque je dis que le message n'est pas typique, n'est pas standard, c'est justement le fait que Paul s'adresse à des gens qui ont une grande culture biblique. Dans ce sens-là, ce message-là que Paul prêche est très adapté à une église, bien que, on espère que plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas beaucoup de culture biblique, mais vous cherchez, vous avez des questions, vous êtes ici parce que vous voulez connaître, c'est parfait. Mais comprenez que Paul, plus tard, va prêcher à Athènes, et lorsqu'il va s'adresser directement à des gens qui n'ont pas de culture biblique, il ne peut pas partir du même endroit. Il y a beaucoup de présupposés dans ce que Paul est en train de faire ici, de connaissances, d'accord? Et donc, dans ce sens-là, le message qu'il prêche ici n'est peut-être pas exactement le message que tu veux annoncer à ton voisin qui ne connaît absolument rien de la Bible. Tu ne pars pas à la même place, mettons. Il y a des éléments du message, tu n'as pas le choix, il faut que tu viennes à ça. Cette notion que l'être humain est pécheur, qu'il y a un Dieu qui s'est révélé, qui est venu vers les hommes. Cette notion que nous ne sommes sauvés que par grâce, tu vas annoncer l'Évangile, mais tu ne pars pas avec les mêmes présupposés. Dans le contexte présent, Paul s'adresse à des Juifs, à des craignants Dieu qui ont une certaine culture, et donc il part avec leurs présupposés, avec leurs connaissances bibliques aussi. Juste quelques mentions brièvement. C'est la prédication la plus complète qu'on a de Paul adressée à des Juifs directement. Je ne pense pas qu'elle est complète, d'accord? Je ne crois pas que Luc nous rapporte toute la prédication complète. Ça prend quelques minutes de prêcher ça. Vous savez, je prêche beaucoup plus longtemps. Puis on dit que Paul pouvait prêcher toute une nuit. Fait qu'il était pire que moi encore, d'accord? Vous n'avez vraiment pas le pire ici. Mais donc, je ne pense pas qu'on a toute la prédication au complet. Mais c'est la plus complète qu'on a adressée à des Juifs. Et je fais juste vous mentionner aussi, c'est vraiment intéressant de voir à quel point on reconnaît déjà Paul. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, allez les Romains cette semaine. Lisez cette prédication-là, vous voyez tout de suite l'apôtre Paul, sa prédication, son approche sur la justification, les thèmes principaux de l'apôtre Paul sur le salut sont déjà présents ici. C'est vraiment une prédication typique de Paul qu'on a ici, mais qui s'adresse à des Juifs directement, et c'est la plus complète qu'on a. Donc, on voit son approche par rapport aux Juifs eux-mêmes. Et ce que Paul fait ici, c'est qu'il va retracer finalement l'histoire. Il va retracer leur histoire en commençant par le début. Alors, si je veux résumer les 15 prochaines minutes, ce qu'on va voir ensemble, je le résumerai comme ceci. On va voir ensemble ce matin que Dieu, suivant ses promesses, a suscité un sauveur pour Israël et pour tout homme qui aura l'humilité de croire en lui afin d'être libéré de ses péchés. Je résumerai en trois points. Premièrement, Dieu accomplit ses promesses. Il a suscité un sauveur comme il l'avait annoncé. Deuxièmement, il revient à chacun de choisir, je le dirais comme ça un peu plus clairement, entre la foi et l'incrédulité, entre la reconnaissance et l'arrogance. C'est le choix de chaque homme qui est exposé à l'Évangile. Et troisièmement, quel est l'appel de l'Église devant ce message-là de salut? C'est toujours le même. Annoncer le message de l'Évangile, annoncer le message de l'Évangile, annoncer le message de l'Évangile. C'est ça notre appel, c'est ça notre réponse. Alors, premièrement, Dieu accomplit ses promesses, il a suscité un sauveur. Ce que Paul fait, c'est qu'il reprend l'histoire d'Israël en quelque sorte. Il commence au tout début, au verset 17, en disant « Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. » Et donc, ce thème de l'élection, le fait que Dieu vient et parmi toutes les nations de la terre, lui va venir et choisir, apparaît déjà dans le texte ici. Et Paul est en train de les ramener en arrière et dire « Rappelez-vous, Dieu vous a choisi. Dieu a choisi nos pères. » Et c'est l'élection qui apparaît ici. Dieu a souverainement choisi nos pères. Et là, il va leur montrer, il va leur rappeler les bontés de Dieu. Combien ce peuple-là a toujours été le peuple de Dieu par pure grâce. Voyez-vous la suite ici, il dit, « Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. » Déjà, Paul est en train d'amener ce thème de la grâce qui est présent pour dire, « Rappelez-vous, Dieu vous a choisi. » Dieu vous a fait grâce parce que Dieu nous a fait grâce parce que nos pères étaient esclaves en Égypte. Et c'est Dieu qui les a choisis et c'est Dieu qui les a sauvés par son bras puissant. C'est Dieu qui les a graciés. Puis Dieu les a conduits dans cette terre promise où il leur a donné ce pays qu'ils n'ont pas construit. Non, Dieu a jugé à travers Israël d'autres nations et en chassant ces nations, Dieu leur a donné ce pays. Et puis très rapidement, Paul avance dans leur histoire en disant 450 ans, il y a eu des juges en Israël pour conduire Israël. Et certainement que c'est un rappel douloureux pour le peuple d'Israël, pour les gens qui écoutent là, les Juifs, de la rébellion d'Israël. Si vous êtes familier avec l'histoire des juges, lire ces chapitres-là, c'est douloureux. Ça nous parle constamment d'Israël, de sa rébellion. Et si on est chrétien, ça nous parle de nous, de notre cœur, n'est-ce pas? Alors, cette simple mention-là est déjà en train de placer dans leur esprit, encore une fois, cette thématique-là de la rébellion d'Israël, qui avait besoin constamment de quelqu'un qui était choisi, envoyé par Dieu pour venir les secourir lorsqu'ils s'éloignaient, puis les ramener vers Dieu, les délivrer de leur oppresseur qui était là comme un jugement divin et les ramener constamment. Et puis, ce peuple-là a voulu un roi. Ça leur prenait un roi. Il ne leur suffisait pas d'avoir un Dieu. Ils voulaient avoir un homme devant eux qui allait être choisi, à qui ils allaient obéir. Et donc, ils voulaient avoir un roi. Et Dieu leur a donné Saül. Saül qui n'était pas selon le cœur de Dieu, qui était à l'image d'Israël, qui a été au départ un bon roi, mais qui, après ça, est devenu un roi corrompu. Et puis, Dieu leur donne David. David, homme selon le cœur de Dieu. Homme estimé entre tous dans l'histoire d'Israël. Abraham, Moïse, David, vous avez le top là. Homme selon le cœur de Dieu. Et très rapidement, Paul fait un lien et il leur dit, voici l'héritier de David. Regardez avec moi dans le passage, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Au verset 23, il y a quelque chose qui apparaît dans le texte ici. Regardez-le comme il faut avec moi. Il y a quelque chose qui apparaît dans le texte ici qui est extrêmement important pour comprendre la prédication de Paul. Paul dit ici « selon sa promesse ». Parce que dans toute la suite de la prédication, Paul va dire « comme l'avaient dit les prophètes, comme l'avaient annoncé les prophètes, comme cela avait été annoncé ». Et donc, il y a cette rengaine qui va embarquer dans la prédication où Paul va dire « Dieu est fidèle à ses promesses. Ce que Dieu dit, il le fait. Dieu est constant. Comptez sur une chose, au-delà des taxes et des impôts, comptez sur une chose, Dieu. S'il dit quelque chose, il va le faire. Je vous le garantis. » Et donc, ce thème-là embarque. Fidèle à sa promesse, Dieu a suscité un sauveur qui allait être de la lignée de David, qui allait venir accomplir cette promesse qui avait été faite à David, que son trône serait éternel, sa lignée serait éternelle. Jésus est cet héritier de David. Et là, ce thème de l'accomplissement des prophéties va venir envers et contre tous. Je continue juste de vous relire le passage vite. On continue verset 24. « Avant sa venue, Jean avait prêché, il parle de Jean-Baptiste, le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, et il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme franc, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes. » Puis là, Paul va revenir constamment avec cette idée-là. Dieu accomplit ses prophéties. Dieu est fidèle. Et ce Jésus-là qui est apparu, il est l'accomplissement des prophéties, parce que Dieu est fidèle. Puisque Paul va développer ici, il va dire, écoutez-moi bien, Dieu a suscité ce Sauveur qu'il avait annoncé, il a ressuscité ce Sauveur qu'il avait annoncé et il a élevé ce Sauveur qu'il avait annoncé. Mais vous l'avez rejeté. Mais vous avez été arrogant. Vous avez été rebelle. Paul induit dans le texte ici qu'il se retrouve maintenant à Antioche de Pisidie parce que Jérusalem a rejeté Jésus. C'est ça qu'il induit. Maintenant, si vous êtes avec nous depuis le début dans le livre des Actes, c'est pas faux. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem lorsque l'Évangile a commencé à se répandre dans Jérusalem? Quand ça a commencé, là, vraiment, ça levait, mes amis. C'était comme le buzz en ville. Oh, faut être chrétien. C'est quoi qui s'est passé? Persécution. Persécution. Jérusalem a rejeté Christ à ce moment-là une nouvelle fois. Non seulement ils l'ont crucifié, mais ils l'ont rejeté une nouvelle fois. Quand je dis ça, je ne parle jamais de tout Israël, vous comprenez? Je parle de la majorité. La première église était composée de juifs convertis qui ont cru que c'était leur Messie. Donc, je ne parle jamais de tout Israël, mais je parle de la majorité d'Israël. Et donc, il y a ce thème de cette arrogance qui est présente ici, qui apparaît ici. Mais Paul leur dit, il est venu ce Sauveur. Dieu l'a suscité. Dieu l'a suscité, Jérusalem a voulu le rejeter, ils l'ont crucifié. Dieu est en train d'accomplir ses promesses à travers cette crucifixion. Et la preuve, c'est qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. C'est la preuve que c'était bel et bien lui, le Sauveur. Et on a des témoins, on a plus de 500 témoins à Jérusalem qui sont là et au prix de leur sang rendent témoignage de cette résurrection. C'est ça qu'il dit, hein? Si vous regardez avec moi le verset 31, « Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. » Les témoins sont là à Jérusalem et ils sont en train de se faire massacrer. C'est ce qui va se passer dans les décennies qui suivent. Et ils vont continuer à se laisser massacrer à cause de ce témoignage qu'ils rendent. « Je suis témoin oculaire de la résurrection de Jésus-Christ. Renie ou meurs, je suis témoin de la résurrection de Jésus-Christ. » Sans aucun gain personnel, sans aucun gain pour eux, ils avaient une certitude. Ils étaient témoins, ils avaient été témoins. Ils ne pouvaient faire autrement que rendre témoignage à la vérité, c'est tout. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur verset 33. Parce qu'il y a une perle qui est là, et bon, je m'adresse vraiment à ceux qui connaissent peut-être un petit peu plus les Écritures, mais c'est vraiment un beau trésor qu'il y a là. En parlant de la résurrection, l'apôtre Paul va citer le psaume 2. Il dit lui-même que c'est vraiment le psaume 2e. Et le passage qu'il cite, ici, tout ce qu'il nous dit, c'est « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » D'accord? Vous prendrez le temps d'aller lire le psaume 2. Ici, Paul associe la résurrection de Christ avec le fait qu'il a été engendré comme fils. D'accord? Et donc, ce que Paul est en train de dire, c'est que par sa résurrection, Dieu lui a donné ce corps glorifié et il a dit « Voici, je t'élève. » Maintenant, moi, j'aimerais ça vous lire. Tournez avec moi dans le psaume 2, ceux qui sont assez rapides. Je vais vous lire les versets 6 à 8, d'accord? Je n'ai pas beaucoup de temps pour m'attarder là-dessus, mais ça nous parle de la grandeur de Christ. « Psaume 2, les versets 6 à 8. Vous pourrez lire tout le psaume. C'est vraiment un psaume messianique. Donc, il parle de ce Messie qui était à venir. Mais voici les versets 6 à 8. « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Lorsque Paul cite le psaume 2, il est en train de dire, voici ce qu'il y avait dans le psaume 2, c'est accompli à la résurrection et à l'ascension de Jésus-Christ. Par sa résurrection, Dieu le Père a donné un corps glorifié, a engendré le Fils, d'accord? Mais ce n'est pas simplement qu'il lui a redonné la vie. C'est qu'en faisant cela, Dieu déclare devant toutes les nations de la terre, voici mon Fils bien-aimé à qui je donne toute autorité sur toutes les nations de la terre. Il est le premier-né d'un peuple qui va naître par la foi en lui, le premier ressuscité de résurrection à venir et celui qui domine sur toutes les nations de la terre. Voyez-vous, lorsque Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est pas simplement, souvent vous allez m'entendre dire que Dieu a agréé le sacrifice de Jésus, c'est vrai. C'est une toute petite partie de ce que ça signifie, sa résurrection. C'est beaucoup plus que ça, la résurrection de Jésus. Jésus a été fait péché et Dieu le ressuscite d'entre les morts. Il a pris sur la croix la condamnation de nos péchés. Il a été fait péché. Et Dieu a agréé son sacrifice et l'a ressuscité d'entre les morts. Mais Jésus-Christ est allé vaincre la mort à cet endroit-là. Il est allé vaincre le péché à cet endroit-là. Il est allé vaincre le diable à cet endroit-là. Et par sa résurrection, Dieu dit, « Voici, tu es maintenant celui qui va être élevé au-dessus de tous, de tous les hommes, de toute autorité, de toute domination. Tu es celui qui règne maintenant. » Et c'est pourquoi Christ n'est pas resté sur la terre ressuscité, mais il est allé à la droite du Père. Et il siège actuellement. Il règne actuellement sur toutes les nations de la terre. C'est pourquoi des gens de toutes les nations placent leur foi en Jésus-Christ. L'Évangile n'atteint plus seulement que les Juifs, mais atteint des gens de toutes les nations de la terre. Et les gens sont attirés à lui. Pas tous les hommes, comme on le voit dans le texte ici, mais les gens sont attirés à lui parce que Dieu lui a donné toute autorité. Alors, Paul expose le fait que Dieu a été fidèle à ses promesses. Paul expose le fait qu'il a envoyé ce Sauveur, qu'il a suscité Jésus-Christ, qu'il l'a ressuscité et qu'il l'a élevé au-dessus de tous. Et je voudrais attirer votre attention sur un dernier élément, juste avant d'aller à la réponse qui revient à chaque homme. Encore une fois, c'est une perle qu'il y a là dans le passage. Au verset 38-39, je les ai cités tout à l'heure pendant le repas du Seigneur. Versets 38 et 39, il est écrit, « Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Ceux qui sont assez rapides, tournez avec moi dans Romains 6, s'il vous plaît. Pour les autres, je vais vous lire le passage si vous n'êtes pas familier. Lorsque Paul parle, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une prédication de Paul. Romains, c'est Paul qui a écrit la lettre aux Romains, d'accord? Alors, on est vraiment dans une prédication de Paul. Lorsque Paul dit que celui qui croit en Jésus-Christ est justifié de toutes les œuvres dont il ne pouvait être justifié par la loi de Moïse, le terme grec qu'il utilise ici est un terme qu'il n'utilise pas constamment et surtout pas toujours de cette manière-là. Et c'est le même qu'on trouve dans Romains 6, les versets 6 et 7. Et je veux juste vous montrer qu'il y a un autre élément en plus d'être déclaré juste à l'égard du péché ici. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est justifié du péché. C'est ça que j'ai ici dans le grec. Quand Paul s'adresse aux Juifs, il parle à des gens qui connaissent la loi de l'Ancien Testament. D'accord? Et toute leur histoire, il vient juste de leur rappeler, c'est une histoire d'incapacité d'honorer la loi de Dieu. Si vous avez lu l'Ancien Testament, vous avez lu le livre des Juges, vous savez qu'Israël est juste la démonstration qu'ils ne sont pas capables d'honorer Dieu, ils sont pécheurs, et ils se détournent à tout moment donné de Dieu. Et dans le passage ici, dans ce passage-là, Paul est en train de dire, voici Jésus est venu, Jean rebelle. Il est là. Et c'est possible maintenant, lorsqu'il dit d'être justifié de tout ce que vous ne pouviez pas être justifié dans la loi de Moïse, c'est de ne plus être redevable au péché, de ne plus être lié au péché. Et donc, celui qui place sa foi en Jésus-Christ est non seulement déclaré juste devant Dieu, ses péchés sont pardonnés, mais il n'est plus redevable au péché non plus. Il n'y a plus de lien qui l'attache au péché. Le peuple d'Israël savait qu'ils avaient été incapables pendant des siècles d'honorer la loi de Moïse. Incapables d'être justes selon la loi de Moïse. Et Paul leur dit, vous pouvez être libres de ça maintenant. Pardonnez et dégagez, libérez de cet esclavage au péché pour pouvoir marcher maintenant dans la liberté. C'est pourquoi je dis, Dieu est fidèle à ses promesses. Il a envoyé un sauveur pour tous les hommes afin de les libérer de l'esclavage du péché. Et c'est ce que Paul vient annoncer aux Juifs ici. En quelque sorte, il leur dit, « Come on, les boys, si vous voulez être francs, vous le savez qu'on n'est pas aussi hot qu'on le prétend. Oui, on est le peuple choisi, oui, on est le peuple d'Israël, mais soyons honnêtes, notre histoire n'est pas superbe. Si elle a quelque chose de superbe, c'est Dieu qui est hot dans notre histoire. » Pour notre part, c'est pas toujours beau. Maintenant, repentez-vous. Parce que Dieu a accompli une œuvre grande, une œuvre tellement grande que si on vous la racontait, vous ne la croiriez même pas. Et il l'accomplit maintenant, dans la personne de Jésus-Christ, qui a été, c'est vrai, crucifié, mais c'était selon les desseins de Dieu. C'était afin que vos péchés puissent être pardonnés. C'était afin que vous puissiez être libre à l'égard du péché et qu'il n'y ait plus de lien entre vous et le péché. Que tout ce que la loi de Moïse ne réussissait pas à produire en vous, Christ vienne le produire en vous. Et enfin, il apparaît dans ce passage-là cette deuxième idée qui est, je crois, vraiment importante et chacun d'entre nous, on doit répondre à cette question-là. Il revient à chacun de choisir entre la foi et l'incrédulité entre la reconnaissance et l'arrogance. Par l'histoire de Jérusalem, par l'histoire des Juifs d'Antioche de Pisidie, et ça va se reproduire de synagogue en synagogue, on voit combien le cœur de l'homme est rebelle. Voyez-vous, quand Paul arrive et leur raconte cette histoire, ils connaissent tous les marqueurs dans l'Ancien Testament qui annonçaient la venue d'un sauveur et ils ont entendu tout ce que Jésus a fait d'extraordinaire et honnêtement, ils sont inexcusables de ne pas avoir cru en Jésus-Christ. La seule manière d'expliquer cela, c'est l'arrogance du cœur humain. C'est l'arrogance du cœur humain. Le manque d'humilité. Parce que comme je l'ai dit, le message de Jean-Baptiste, le message de Jésus commence par une chose. Repentez-vous. Pour devenir chrétien, la première étape à franchir, c'est reconnaître que je suis un pécheur. C'est la première étape. Si vous n'êtes pas chrétien, vous côtoyez des chrétiens depuis quelque temps, peut-être que vous nous voyez comme des gens orgueilleux. Parce que vous dites, ah, ces gens-là, ils regardent le monde autour et ils pensent qu'ils sont mieux que tout le monde parce qu'eux autres, ils marchent dans la sainteté. Eux autres, ils essayent de, ah oui, c'est ça, hein? Oh, oui, tu vois le péché dans ma vie, hein? C'est ça. Eux autres sont saints. Non, comprenez qu'au plus profond de nous-mêmes, si on est chrétien, plus profond de nous-mêmes, la première chose qu'on voit lorsqu'on se regarde dans la glace, dans le miroir, c'est un pécheur gracié. Parce que la première condition pour venir à la connaissance de Jésus-Christ, pour recevoir ce salut-là, c'est cette humilité profond de celui qui se reconnaît pécheur. Et Israël avait toutes les raisons du monde de se reconnaître pécheur. Ils ont été choisis, c'est une grâce de Dieu. Ils ont été sauvés d'Égypte. C'était une grâce de Dieu. Ils n'ont pas été abandonnés pendant des siècles malgré leur rébellion. C'était des milliers de grâces de Dieu. Et Dieu leur a envoyé un sauveur qu'ils ont crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'était une grâce de Dieu envers eux. Et l'Évangile leur est annoncé, c'est encore une grâce de Dieu. Et Paul nous dit dans ce passage que tous les êtres humains sur la terre, lorsqu'ils sont exposés à l'Évangile, ont deux options. S'humilier, reconnaître que je suis pécheur, et reconnaître que cette histoire merveilleuse de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est pour moi une source de salut. Le seul moyen pour moi d'être gracié et d'entrer en communion avec Dieu. L'autre option, endurcir mon cœur et rejeter cette œuvre-là, en lui trouvant toutes sortes d'histoires pour la mépriser. Et à ceux-là, Paul annonce, disparaissez. C'est ça le message de l'Évangile. Tu crois et tu entres dans la joie ou tu te rebelles et un jour, tu disparais. Parce qu'un jour, Christ reviendra et on se présentera devant lui. Et selon l'humilité et l'arrogance de chacun, Dieu va dire, entre dans ma présence, toi qui t'es reconnu pécheur, qui t'es abrité derrière la croix et retire-toi de moi, orgueilleux, qui n'a jamais voulu rien savoir de ma grâce, de mon pardon en Jésus-Christ. Mais à ceux qui croient, est donné la joie et l'Esprit-Saint. Et il y a un fruit merveilleux. Ces gens-là sont là au milieu des persécutions et ils croient. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui vient sauver les hommes. C'est lui qui fait toute la différence. C'est quoi le rôle de l'Église dans tout ça? Et je termine avec ça ce matin. Dans le passage ici, voyez-vous, et je trouve que c'est concret pour nous de plusieurs manières. Dans le passage ici, je suis obligé de reconnaître que c'est juste à travers le message de l'Évangile qu'ils vont être sauvés. Il y a une toute petite affaire que je vais vous faire remarquer au verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Ce qui les réjouissait, c'est le message qu'ils avaient reçu. Alors voyez-vous, pour nous, notre mandat, c'est une seule chose. Annoncer le message de l'Évangile. Annoncer le message de l'Évangile. Annoncer le message de l'Évangile. Et celui qui va recevoir ce message-là, c'est à travers ce message-là qu'il va se convertir, qu'il va être sauvé. C'est la proclamation de l'Évangile qui sauve. Et c'est un message, il y a un contenu qui est clair qui est là, bien défini. Ces premiers croyants-là glorifient Dieu à cause du message qui leur est apporté. Ce que ça me dit à moi, c'est que je suis mieux de le maîtriser, ce message-là. Le message, c'est pas seulement « Jésus t'aime ». Ah non, il y avait là-dedans « disparaissez arrogant ». Fait que placez ça dans le message. Il y avait là-dedans, Christ est mort crucifié. Crucifié pourquoi? Un bon exemple à suivre? Non. Impossible à suivre. Ça me dit que ce message-là, je dois l'avoir sur le bout des lèvres, constamment le maîtriser, être prêt à l'apporter, être prêt à le donner, parce que c'est à travers ce message-là que Dieu sauve. Et mon rôle à moi, c'est de le prêcher. Le texte me dit aussi, et pour moi, il y a un grand réconfort là-dedans, que c'est Dieu qui sauve. Ah, je sais que plusieurs d'entre vous, vous jonglez avec cette question-là de l'élection. C'est quoi cette affaire-là? Une expression en anglais qui dit « up in your face », il est là dans le texte. Tous ceux ont été sauvés. Tous ceux qui avaient été destinés à cela. C'est Dieu qui sauve. Et ça, c'est important de le saisir parce que notre rôle à nous, c'est d'annoncer l'Évangile et de laisser Dieu sauver. Le message ne change pas. On le contextualise. Quand Paul va le faire, quand il va s'adresser aux Athéniens, ça va être un petit peu différent dans l'approche. Le message ne change pas. Les éléments centraux ne changent pas du tout. Et c'est Dieu qui sauve. Moi, j'annonce l'Évangile. Et ça dicte le comportement des apôtres ici. Parce que les persécutions, pour eux, tout ce que ça leur dit, c'est bon, peut-être qu'on a fait le tour des élus ici. Eux autres, ils ont accepté, eux autres, ils ont accepté, eux autres, tap, non. OK, bon, c'est pas un élu, on va aller au prochain appel. Lui, il accepte, paf, OK, prochain appel. C'est ça qui se passe. Regardez leur comportement. Ils annoncent l'Évangile, puis il reste des chrétiens qui vont être là, qui vont continuer à annoncer l'Évangile. Je suis pas en train de dire que tous les élus se convertissent à la première fois. C'est pas ça que je suis en train de dire. Non, non, l'Évangile va continuer à se répandre dans le pays. Tous ces chrétiens-là commencent à annoncer l'Évangile à leur tour. Mais pour leur part, qu'est-ce qu'ils font? Secouent la poussière, passent un autre appel, continuent à annoncer l'Évangile. Maintenant, ça a une implication pratique dans la vie de chacun d'entre nous, surtout si nous sommes des chrétiens de longue date. J'aimerais m'adresser à tous les parents qui prient pour le salut de vos enfants, à tous ceux qui prient pour le salut d'un conjoint, à tous ceux qui prient pour le salut de leurs proches. Je devrais avoir englobé à peu près tout le monde ici, d'accord? Continuez à annoncer l'Évangile à vos proches. Continuez à prier pour eux. Paul va jusqu'à dire « Je serai prêt à être damné pour le salut d'Israël. » Continuez à aimer votre famille. Continuez à prier pour eux. Continuez à leur annoncer l'Évangile. Mais allez annoncer l'Évangile à la prochaine personne que vous rencontrez. C'est injustifié. C'est pernicieux. Puis ça détruit notre morale chrétienne. Et on désobéit à Dieu. Lorsqu'on commence à annoncer l'Évangile dans notre famille, puis parce qu'on frappe une résistance, notre foi dans la puissance de l'Évangile commence à diminuer. Puis là, parce qu'on essaie de parler, puis ça ne marche pas, bien, on se retire, puis là, on commence à se taire. C'est Dieu qui sauve, les amis. Nous, on annonce le message, puis on prie pour nos proches. Voyez-vous, je prie pour des gens dans ma famille depuis 20-quelques années, puis peut-être que je prie jusqu'à ma mort. Dans ma tête, ils ne sont jamais exclus jusqu'à temps qu'ils rejoignent le Seigneur ou qu'ils passent de l'autre côté. Je vais continuer à le faire. Mais trop souvent, parce qu'on voit une résistance chez nos proches autour de nous, on se décourage et on arrête d'annoncer l'Évangile. On se replie et on se tait. Ce n'est pas notre appel, frères et sœurs. Je n'ai pas à prendre sur mes épaules le fait qu'une personne va se convertir ou non. Votre mandat, mon mandat à moi, c'est d'annoncer l'Évangile. D'annoncer l'Évangile. D'annoncer l'Évangile. Quand c'est reçu avec joie, on va plus loin, on forme un disciple de Christ. Quand c'est reçu avec une brique puis un fanal, on passe à un autre appel. Amen. Il faut le faire, frères et sœurs. Parce que voyez-vous, plusieurs d'entre vous, vous êtes, comme on dit au Québec, stallé. Mais il y a 380 000 personnes autour de nous sur la rive sud qui attendent d'entendre le message de l'Évangile. Qu'est-ce qui empêche un individu de croire en Jésus-Christ et d'être sauvé? C'est l'absence d'humilité dans le cœur de l'individu pour reconnaître ce merveilleux salut. J'entends lorsqu'on lui a présenté l'Évangile. Et peut-être tout simplement que Dieu ne l'a pas destiné à la vie éternelle. Alors ça se passe entre lui et Dieu. Et mon rôle à moi, c'est de prêcher Christ. Maintenant, j'aimerais ça m'adresser à vous si vous n'avez pas déjà choisi de suivre Jésus-Christ. Mais je sais que c'est une question piège. C'est toujours comme ça. C'est moi qui ai le micro puis vous ne pouvez pas répliquer. Mais je vous pose la question, qu'est-ce qui vous empêche de venir à la connaissance de Jésus-Christ, de vous tourner vers Christ pour votre propre salut? Je vous invite à examiner votre cœur. Et si vous dites, non Yannick, tu ne me comprends pas, tu ne me connais pas, c'est parce que ce n'est pas clair pour moi que c'est lui le sauveur. Mais encore là, je t'invite à faire preuve d'humilité, de dire, je vais chercher à le connaître. Je vais lire les évangiles pour le connaître, ce sauveur-là. Et tu vas voir comme moi, c'est un sauveur merveilleux, extraordinaire. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux t'adorer en cette journée d'action de grâce, Seigneur. Je veux être reconnaissant pour ce que tu as fait. Ton œuvre est magnifique, Seigneur. Il est vraiment magnifique. Et tu es vraiment un personnage exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, Seigneur. Et j'ose dire et l'affirmer avec conviction, tu es au centre de l'humanité, Seigneur, et de notre histoire. Seigneur Jésus, l'œuvre que tu as accomplie sur cette croix est incomparable Et ta résurrection, Seigneur, est incomparable. Seigneur, tu es la source de ma vie, tu es la source de ma joie. Et je désire, par ta grâce, annoncer l'Évangile jusqu'à ce que tu viennes me chercher, Seigneur. Ne pas me décourager parce qu'une personne refuse, méprise ton salut, mais simplement continuer à proclamer ce merveilleux salut. Que ton nom soit béni dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Amen.